Fluxfort de retour à Entrevue à Belfort. Nous a rejoint Serge Boson. Bonsoir Serge Boson.
Bonsoir.
Alors Serge, vous êtes réalisateur, acteur et critique de cinéma. Vous êtes déjà venu à Entrevue. Vous y avez notamment présenté certains films, Telmotte à Belfort en 2002. C'était la première fois que vous veniez. Et vous êtes ici pour plusieurs choses dans le cadre de cette 30e édition. Donc vous avez présenté cet après-midi avec Julie Desprairies et Mehdi Zanad le court-métrage L'architecte de Saint-Gaudens, un film que vous co-réalisez justement avec Julie Desprairies, qui elle est chorégraphe, et film pour lequel Mehdi Zanad signe la musique. Suite à cette projection, vous avez animé une masterclass composée pour le cinéma, on va revenir dessus, et vous participez également au programme du Cadavre exquis, donc ça c'est l'une des programmations proposées dans le cadre des 30 ans du festival. Et vous allez présenter ce soir, c'était le mois de mai, un film russe de Marlène Koutsiev qui a été réalisé en 1970. Alors on va peut-être commencer par parler de ce court-métrage, L'architecte de Saint-Gaudens. Donc je précise, pour ma part, je ne l'ai pas vu, j'étais à une autre projection, mais Florence l'a vu. Alors quelle est la genèse de ce film, Serge Boson ?
Je vais essayer de faire court. Donc c'est un film de danse, c'est pas un film avec des dialogues. Il n'y a pas de dialogue. Donc la genèse, en fait, c'est une commande de Julie Desprairies, la chorégraphe, qui a l'habitude elle, de faire des spectacles avec des habitants dans leur lieu de travail ou de vie, mais qui ne sont donc pas des lieux dévolus au spectacle et pas des habitants qui sont des danseurs. Et donc là, elle a une commande de pronomade, un truc de musique, de spectacle vivant pour Saint-Gaudens. Mais comme les lieux qu'elle a trouvé intéressants étaient trop éloignés les uns des autres pour faire venir les spectateurs à pied qui se déplacent, il faut aller trouver une autre solution. Et la possibilité, c'était l'idée qu'elle a eue, c'était d'en faire un film, où du même coup, au lieu qu'il y ait simplement des habitants qui dansent dans leur lieu de travail ou de vie dans différents immeubles, il y aurait aussi la présence d'un architecte, l'architecte de Saint-Gaudens, en hommage ou en rémanence d'un projet de Corbusier pour la ville qui n'a jamais été accompli, mais dont il reste des traces, des brouillons, des lettres. Et donc le film parcourt un peu, entre guillemets, ce qui reste, les traces du rêve évanoui du Corbusier.
Mais alors, cette ville, vous la connaissiez avant de faire ce projet ? Et alors justement, dans quelles conditions est-ce qu'on découvre une ville ?
Moi, je suis venu avant le tournage, en avril, pour voir les différents lieux qui avaient été choisis par la chorégraphe, pour qu'elle m'explique un peu les chorégraphies qu'elle voulait y faire. Pendant ce temps, j'avais écouté aussi les chansons qu'avait commencé à faire Mehdi avec les habitants, parce que même les chansons sont aussi enregistrées et joué par les habitants ceux qui sont au conservatoire, quoi. Et donc ensuite j'ai élaboré un découpage et puis j'ai mis en place quelques principes pour essayer d'accentuer le son direct, pour essayer de faire en sorte que la présence de l'architecte soit plus constante, parce qu'il arrivait qu'à la fin dans le projet de Julie, tandis que je l'ai fait arriver tout de suite. Enfin, je pourrais donner 1000 petites variations, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas très parlant.
L'architecte n'est arrivé qu'à la fin?
Non, l'architecte était dès le début dans le projet, sauf que dans le projet de Julie Desprairies, il arrivait physiquement. Il est en communication, si vous voulez, dans la ville avec les habitants, qu'à la toute fin, la scène des tribunes. Alors que moi, j'ai trouvé que ce soit bien que dans tous les lieux, il soit là, qu'à chaque fois, en son corps, quoi, il arrive et il parle ou il chante, et les gens lui répondent par une danse. Et la fragilité de son chant, on peut dire, fait écho à la fragilité des danseurs, qui ne sont pas des danseurs, et qui font des gestes qui sont liés à leur travail. Ce ne sont pas des gestes c'est pas Julie Desprairies qui dit fais ci, fais ça. Elle propose aux gens qu'ils leur montrent ce qu'ils font dans la vie quotidienne dans ces lieux-là, et à partir de ce qu'ils font de fait dans ces lieux-là, elle choisit tel ou tel mouvement qu'elle va ensuite simplement organiser, mais sans jamais en proposer elle-même, un seul d'elle-même.
Florence ?
Oui, moi j'aimerais qu'on revienne sur la dernière partie chantée, donc la confrontation entre l'architecte et les habitants.
C'est ma scène préférée, ça, ouais.
Alors, on a le sentiment presque de... Il y a un dialogue assez amusant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais l'occasion de demander à un architecte
pourquoi il fait ça. Pourquoi 13 étages, pourquoi là on voit des structures en béton, pourquoi là c'est en verre et pas autrement. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est si vous voulez, tous les spectacles de Julie Desprairies sont autour de l'architecture, puisque son principe, encore une fois, c'est à chaque fois d'aller dans des lieux qui ne sont pas dévolus à la danse, et de travailler uniquement sur ce que le lieu impose comme contrainte à ceux qui vivent ou à ceux qui travaillent, et avec l'histoire du lieu. Mais sauf qu'on ne voyait jamais l'architecte. Et donc c'est la première fois que finalement son obsession sur l'architecture prend corps de manière toute simple, avec le corps de quelqu'un qui est architecte d'ailleurs dans la vie. Et qui a en plus une sorte de fragilité, de douceur dans sa manière d'être, à l'écran, de timidité, qui fait que je trouve d'un coup que le rapport à l'architecte n'est pas comme le surhomme qui arrive pour donner ses plans avec ses ouailles qui applaudissent en disant vite refaites-nous un HLM ou refaites-nous une cité dortoir, parce qu'il a une sorte de timidité qui lui enlève le piédestal que lui donnent les paroles. Donc je trouve que ça fait une communication assez jolie. On a l'impression en effet de voir comme un petit village qui dialoguerait, parce que lui en plus il est dos, on voit pas son visage, avec des habitants où en gros il dit j'essaie de faire ce que mieux possible, l'autre ils sont contents de lui mais ils se posent quand même des questions. Il y a un côté comme ça où c'est ni casser l'architecture en disant oh oui vous avez pas pris en compte, c'est pas nos contraintes de vie, vous avez pas pris en compte nos bagnoles, où est-ce qu'on les met, vous avez pas pris en compte les bébés, comment on fait avec les poussettes, et c'est pas non plus le côté les architectes sont des génies, ils viennent avec leurs projets élaborés sur table, ils peuvent révolutionner. Je sais pas comment dire, il y a un jeu de va-et-vient qui donne un côté un peu concret, un peu quotidien, à une sorte de France un peu discrète, à l'image de ceux qu'on voit à l'écran. Voilà.
Alors, ce qui est amusant aussi,
un
c'est
peu quotidien,
que
quoi.
Vous dites l'architecte dans le film n'est pas un surhomme, et en même temps, on part de l'idée, voilà. On part de la présence du Corbusier,
voilà,
qui
fait.
Pour le coup est lui, la figure de l'architecte
voilà.
Mythique.
Voilà, tout à fait, mais c'en est presque comique, parce que dès le premier plan du film, il y a Corbusier qui est derrière, une photo, et lui, il fait des micro-gestes avec une micro-maquette, puis ensuite, il les refait sous un mode dansé, donc cette fois-ci sans bois, sans rien dans les mains, il fait les gestes sur les mains, et déjà tout de suite, ça installe, je trouve, cette petite espèce de réserve ébahie que le film va prolonger avec les gestes de tous les gens qu'on voit dans le film et ceux de l'architecte à fortiori.
Vous avez commencé en nous disant c'est un film de danse. Alors
voilà.
Pour autant, à quel moment la musique est-elle arrivée, la nécessité?
C'était en même temps en fait. Si vous voulez, je lui ai déprimé pendant qu'elle travaillait avec les habitants pour essayer de voir déjà qui est-ce qui acceptait, dans quel lieu elle pouvait avoir, qu'est-ce qu'il faisait comme geste dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Lui, il travaillait pendant le même temps avec les élèves du conservatoire de Saint-Gaudens en essayant de leur faire apprendre ses compositions en travaillant avec eux. Telle orchestration à cordes, instruments avant. Donc ça s'est fait en parallèle. Si vous voulez, c'est pas comme s'il y avait des musiques qui étaient faites, puis elle avait dit aux gens de danser là-dessus. Non, non. Ou l'inverse. Lui aurait récupéré des danses, il aurait essayé de faire des musiques dessus. Non, en fait, chacun a travaillé de leur côté, en espérant qu'au final, ça se coordonne un minimum pour que ce soit pas le chaos, quoi.
Et le fait de solliciter justement Medizanat, ça vous est apparu évident d'emblée?
Ben, en fait, c'est Julie Desprairies, encore une fois, qui est à la base du projet. Moi, je suis arrivé le dernier. En fait. C'est Julie Desprairies, la chorégraphe, qui a demandé à Medizanat. Et c'est, ensuite, elle m'a demandé à moi. Mais moi, je suis le dernier à arriver. C'est celui qui arrive quand le travail est fini. J'ai plus qu'à poser ma caméra, si vous voulez. Les danses ont déjà été faites. Le choix des gens a déjà été fait. Le choix des chorégraphes a déjà été fait. Le choix de la musique a déjà fait. Moi, je suis celui qui a le moins bossé, entre guillemets. D'une certaine manière. Enfin, peut-être que, comme souvent au cinéma, c'est celui qui bosse le moins, mais non, c'est une blague. Mais en tout cas, oui, non. Donc Medizanat, moi, par ailleurs, je le connais. Parce que j'ai fait La France,
vous avez déjà travaillé
où il avait fait la musique,
lui.
Avec Benjamin Zaffaud, j'ai fait des clips pour lui, j'ai écrit toutes les paroles de son dernier album qui s'appelle Fugue. Et même Julie aussi, Julie Desprairies, j'ai beaucoup travaillé avec elle, parce que dans l'époque de Mods, donc ici même, qui a été découvert ici en 2002, elle avait fait toutes les chorégraphies, elle a fait les chorégraphies tip top, on a travaillé ensemble sur des clips, elle m'a fait faire différents trucs, on a fait des choses, enfin, c'est des gens que je ne vois pas de manière quotidienne, mais enfin avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, quoi.
Oui, et Medizanat est architecte de formation,
voilà,
il enseigne le dessin d'architecture.
Voilà, ouais, tout à fait, c'est ça qui est marrant en plus, c'est qu'il est vraiment un architecte de formation, mais maintenant il ne vit pas vraiment de l'architecture, il fait du dessin pour architecte. Il ne conçoit pas, si vous voulez, tel ou tel immeuble, il fait du dessin urbain pour architecte. Il dessine quoi.
Alors je me suis demandé, parce que dans cette séance, le film L'architecte de Saint-Gaudens s'était articulé avec un autre film, Vincent V, très différent. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette articulation? Pourquoi
ça,
on va
demander à Lily Instinct ou au programmateur ici. J'imagine que dans les deux, il y a un rapport à l'environnement urbain. Donc, dans un cas, c'est la banlieue, dans l'autre cas, c'est la province semi-rurale. Dans un cas, il y a un discours politique très frondeur et semi-éclaté, confus, un peu une sorte d'insurrection, un peu la Baldwin ou un peu une sorte de Black Panther revisité en banlieue française. Le mien est beaucoup plus discret et doux. Il n'y a pas l'idée comme ça d'agit-prop insurrectionnel. Mais bon, j'imagine c'est le rapport à la ville et à l'idée de qu'est-ce qu'on fait dans un décor donné, comme son film est uniquement en plan séquence. Donc à chaque fois, la caméra est posée sur un pied dans un lieu et ensuite il y a des gens qui font des trucs dans la ville. Et donc il y a peut-être un rapport comme ça avec le fait de qu'est-ce qu'on fait d'une architecture urbaine et comment on la met dans le plan en faisant en sorte qu'on la découpe pas. Mon film est très frontal aussi, c'est peu découpé. En général, sur un film d'action, par exemple, les lycéens du lycée agricole qui sont dans le marché couvert, il n'y a pas un plan à gauche, puis un plan à droite, puis un raccord mouvement sur le regard. Non, il y a un seul plan dans lequel tout se passe. Et son film, il est encore moins découpé parce que lui, c'est que des plans séquences bruts. Mais peut-être que c'est ça le rapport, je sais pas, il faudrait demander au programmateur en fait. C'est peut-être un aléa de programmation parce qu'il fallait un film court avec un film court et qu'il n'y avait pas 300.
Juste, vous dites, vous parlez de votre façon de travailler, de filmer sur ce film.
Ouais.
Est-ce que justement, c'est l'architecture aussi qui a inspiré cette...
Bah, il fallait en tout cas la prendre en compte, puisque le but c'était qu'on la voit un minimum, puisque c'est fait en fonction des bâtiments, par exemple. Il fallait par exemple que le garage, concrètement, il y ait au moins un plan où on le voit en entier. Cette espèce de bizarre garage qui a une forme très particulière, où il fallait que la piscine, on voit un moment comment elle s'ouvre. Et puis une tournesol, il y en avait beaucoup dans les années 70, mais maintenant il doit rester, je crois, 2-3 en France, c'est devenu des pièces de musée. Donc oui, bien sûr, il fallait prendre en compte. Alors que moi, j'aime pas trop les plans trop généraux, surtout qu'avec ce genre de film, avec le cadre 1,66, je trouve qu'il faut pas en mettre trop plein la vue avec les décors, il faut que ça reste un peu à échelle, série B, à échelle humaine. Mais oui, bien sûr, ça a imposé des contraintes, mais qui étaient déjà, on peut dire, imposées à la chorégraphe elle-même, ou dont elle était partie, quoi.
Alors vous avez animé, donc, suite
voilà, une masterclass.
À la... à la projection une masterclass composée pour le cinéma. Alors, comment compose-t-on pour le cinéma, Serge Boson ?
Comment
compose-t-on ?
Bah, c'est pas moi qu'il faut répondre, c'est Amédée Zanane. Hein. Moi, j'ai pas composé. Hein. J'avais écrit les paroles de la France, les chansons de la France, mais là, je n'ai rien composé, ni les paroles, ni les chansons. Les paroles, c'est Julie Desprairies, et les musiques, c'est Amédée Zanane. Moi, j'ai juste, parmi les interventions a cappella que j'ai fait rajouter au tournage, j'ai collaboré aux interventions a cappella de Mehdi, voilà.
Mais alors, pour poser la question différemment, vous, en tant que réalisateur, oui. Qu'attendez-vous d'une musique
ou de la composition si vous voulez. En plus, moi, dans mes films, il n'y a jamais eu de musique extra-diégétique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de musique qui vient de l'extérieur. Moi, dans mes films, la musique, c'est parce qu'il y a la musique, si quelqu'un chante, si quelqu'un en écoute, si quelqu'un en fait. Et donc, je n'ai jamais eu la question de la BO au sens strict, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme musique pour changer l'atmosphère, pour faire monter telle ou telle angoisse, pour faire soupçonner telle chose. Je n'utilise pas de musique. Voilà. Il n'y a que de la musique directe, il n'y a que du son direct. Et même dans la France, qui est une comédie musicale, tout avait été chanté. En direct, et jouer en direct. Alors même que c'est des poilus dans les tranchées, tout ça, c'est que du son direct.
Pourquoi rien ce fait après choix coup. Pourquoi?
Parce que ça donne une vérité au plan, ça donne une impression de choses naturelles, organiques, et on n'a pas l'impression, comme dans un clip, qu'on a mis un ruban de trucs qui viennent de la radio et qui écrase les images. On a l'impression qu'entre les images et le son, il y a une sorte de vérité, quoi, de fragilité. Enfin, le son direct, c'est pas moi qui suis un apôtre. Hein, je veux dire, depuis André Bazin, fondateur de la critique française et le père spirituel de la Nouvelle Vague, la question du son direct, c'est quelque chose de crucial. C'est presque plus important que l'image, en vérité. Parce que c'est ça qui donne au film l'impression qu'il a une sorte de racine, qu'il a une sorte de vérité. Quoi. Que c'est pas ça que les gens s'énervent contre le doublage ou contre telle chose. C'est qu'on a envie simplement d'avoir un rapport assez naturel entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, et que les choses sortent vraiment des corps, que le son prenne en compte les décors. C'est pour ça que dans mon film, même si c'est des chansons, on enregistre à chaque fois la voix de Mehdi dans le décor même, en direct. Ce qui fait que quand il chante la même chanson, mais dans un autre décor, sa voix sonne différemment. Ce qui ne serait pas bien pour une musique, parce qu'on se dirait qu'est-ce qui se passe, mais par contre pour un film c'est bien, parce qu'on sent justement la manière dont l'espace influe, ne serait-ce que sur la résonance vocale du chanteur. Ça crée une espèce de vérité du plan, quoi.
Florence.
Et en même temps, vous le dites, l'architecte chante dans le film qui est présenté ici. Et là finalement, est-ce qu'on n'est pas justement à l'opposé complet d'une sorte de vérité d'ambiance qu'on peut avoir dans le cinéma vérité, dans ces
Si, parce que non, parce qu'il chante, mais il chante en direct, si vous voulez.
Mais donc, il chante, c'est complètement antinaturel pour se parler.
Ah oui, moi, la question du naturel, c'est pas la naturelle au sens de la naturelle de ce qu'on fait, c'est le naturel du son, moi, c'est le naturel technique en fait. Hein. C'est le naturel qui est la vérité organique, la technique. Mais moi, je m'intéresse pas du tout au sens où c'est pas un documentaire, hein, et je m'intéresse pas du tout au cinéma naturaliste. Moi, je déteste tous les films réalistes. Je trouve que c'est une sorte d'invasion d'infection, qu'il faudrait que tous les cinéastes qui en font soient tués. Donc, c'était une vérité au sens technique, c'est-à-dire qui fait que entre le son et l'image, il y a quelque chose qui est organique. Mais ça ne veut pas dire que ce que font les gens, ils le feraient dans la vie. Évidemment que les architectes ne vont pas chez les gens en chantant, ne vont pas rencontrer leurs habitants. Mais c'est ça qui fait que le cinéma existe, c'est qu'il s'y passe des choses qu'on ne peut pas voir dans la vie. Sinon, on n'aurait pas besoin d'aller dans les salles, on resterait chez soi.
Alors ça va être très compliqué par rapport à la sélection de cette année où on a toujours cette porosité entre la fiction et le documentaire.
Moi, je suis contre le documentaire.
Vous avez envie d'exécuter beaucoup de personnes.
Moi, je suis contre le documentaire.
C'est-à-dire ?
Enfin, j'ai pas lancé la danse de la radio, mais, je suis contre le documentaire. Moi, j'ai
le
truc de cinéma, enfin bon, j'ai pas rentré dans les théories trop générales, parce qu'on pourra toujours trouver des exceptions, mais bon. Je trouve qu'il y a un danger du documentaire, qui en plus prend de plus en plus de pouvoir maintenant dans le cinéma. Mais bon, disons tout simple, c'est que pour moi, le cinéma, je sais pas ce que vous aimez comme cinéma, mais enfin, quand on est adolescent, personne qui a une passion pour le cinéma, ou même enfant, c'est parce qu'il a vu tel ou tel documentaire, ça c'est pour le travail d'atelier à la fac. Il aimera peut-être James Bond, il aimera peut-être Mad Max, il aimera peut-être John Wayne, mais enfin voilà, c'est pas le but de donner du travail aux profs, c'est autre chose, c'est un truc qui vient d'Hollywood ou de Mosfilm, ce que vous voulez, de Cinecittà, c'est l'idée de quelque chose qui est plus grand que la vie, je sais pas comment expliquer, quelque chose de voilà. Moi j'ai pas envie d'aller au cinéma pour voir des documentaires, mais bon, encore une fois, je pourrais développer plus, mais c'est pas spécialement intéressant, c'est très dogmatique, et en plus je ne fais que répéter des choses qui ont été dites par Truffaut, par Robert Bresson, qui était très anti-documentaire, sauf que maintenant ça paraît scandaleux parce que le documentaire, surtout dans la RSA, a pris beaucoup beaucoup d'importance. Dans les festivals partout, mais en fait c'est une position plutôt traditionnelle. Je veux dire, voilà. Ce que je dis c'est plutôt en fait.
Mais alors
vieillot.
vous justement, lorsque vous étiez étudiant ou lycéen, quels étaient les films?
Bien sûr, moi j'en avais plein, comme tout le monde.
Quels étaient les films ou les cinéastes qui vous touchaient?
Comme tout le monde de la génération, moi il est toujours en Amérique, de Sergio Leone, j'adorais ça. Heaven's Gate de Michael Cimino, Les Portes du Paradis, j'avais adoré ça. Toujours de Cimino, j'avais adoré le film avec Mickey Rourke, La Nuit du Dragon. Enfin bon, c'est beaucoup le cinéma américain de toute façon quand on est jeune. Ensuite, je me suis mis à beaucoup aimer Truffaut, etc. Enfin bon, voilà, mais je savais même pas que le documentaire existait, j'en avais jamais vu de ma vie. Hein.
Alors, vous nous disiez précédemment au sujet toujours de l'architecte de Saint-Gaudens, la dernière scène, c'est votre scène préférée.
Oui, c'est ma scène préférée parce que je trouve que dans le rapport architecte-habitant et le fait qu'ils se parlent au sens strict, où ils se posent des questions et l'autre y répond, et qu'il y a le rapport aussi au chant et le fait que c'est fait en un seul plan, très simple, juste un panoramique, on le suit. Et en plus, c'est la musique que je trouve la plus jolie. Et puis là, le côté son direct est super parce qu'il y a style 50 personnes. Il y a des instrumentistes, il y a des flûtes, il y a des violons, il y a des batteries, il y a des cordes, et tout ce que vous voulez. Et plus, ceux qui chantent, c'est des membres du club de, local, de, je sais pas comment on appelle ça, les clubs vocaux, qu'on appelle ça, ils font des... Les chorales, c'est des membres de chorales, donc c'est plutôt des petits vieux. Donc c'est assez marrant d'avoir des petits vieux. Avec des
mais en fait, c'est très rare d'avoir un réalisateur qui va dire de, comme ça, de façon aussi franche, ouais. C'est ma scène préférée dans mon film.
Oh, souvent, les réalisateurs, je pense qu'ils ont quand même des scènes préférées dans le film. Puis en plus, je trouve que ça s'arrête comme ça, c'est très bien. En fait, c'était pas du tout prévu au scénario, normalement, il y avait encore deux scènes. Mais au montage, même si ça me faisait la peine par rapport aux gens qui avaient participé et à Julie Debré qui avait travaillé toute une chorégraphie, je les ai fait sauter parce que je trouve qu'après cette scène-là, qui était une fin naturelle, où enfin l'architecte répond aux habitants et vice-versa, on ne pouvait plus rien mettre après. C'était pas possible de continuer. Et en plus, je trouve qu'il y a un truc vraiment très simple en termes de plan, mais où c'est d'un seul tenant. Il y a un côté, je ne vais pas en frimer parce qu'il ne faut pas dire non plus que c'est un petit court-métrage, ça, mais il y a un côté un peu comme, un peu pas marmoréen, mais comme dire, c'est comme un peu un bloc. Juste un mec qui il marche, il descend des escaliers, il chante, il est de dos d'un bout à l'autre. Et je trouve que le plan a une sorte de densité un peu minérale qui a une tenue, quoi. Mais bon, je rajoute peut-être, hein, peut-être c'est prétentieux. Enfin, je le trouve bien, ce plan. Voilà.
Florence,
qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez comme film?
Oh, j'en vois plein de films tout le temps. Moi. Bah, j'ai vu par exemple le dernier film de Frère Larieux, que j'ai trouvé très bien, dont on voit les images, là, 21 nuits avec Patty. J'adore pas le début, j'avoue. Mais c'est à partir du moment où Du Sol y arrive que je trouve que le film devient génial. Et je trouve que c'est leur meilleur film. Et que ça, c'est dans le prolongement, dans la lignée, disons, du Voyage aux Pyrénées, dans une espèce de loufoquerie, mais sauf que c'est poussé encore beaucoup plus loin. Et qu'il y a une sorte de jusqu'au boutisme dans le côté métamorphique, justement, de la fiction, de toutes les choses intrigantes, improbables et même. Affubulatrice, en particulier liée au personnage de Dussolier, où il y a vraiment un vertige, où je trouve que c'est la première fois qu'il pousse le vertige aussi loin, peut-être comme Shakespeare ou Calderon, pas avant toute l'idée, la vie est une scène, je vais pas revenir là-dessus, là, mais le rapport entre l'idée que peut-être on est tous des comédiens qui ont appris un texte, sauf qu'on s'en rend même pas compte, mais qu'on le récite. Même là, vous êtes en train de me réciter un texte que vous avez appris, sans le savoir. Et donc l'idée que être libre.
Aussi, c'est, je pense, non ?
Peut-être, mais l'idée qu'être libre, c'est parler avec les mots d'un autre. C'était une idée qui vient d'Eustache, je trouve que dans ce film-là, elle trouve enfin sa pleine mesure.
Alors, on parle des films d'autres réalisateurs. Et oui. Bien, parlons justement celui que vous proposez dans le cadre du Cadavre exquis.
Ouais.
Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous décrire l'image que vous avez reçue et qui vous a inspiré pour choisir votre film ?
Je m'en souviens même plus.
C'est vrai, vous avez oublié l'image ?
Ah oui.
Et si c'était...
Ça, il y a des mois. Ah oui, c'était ça, c'était l'espèce de... Mais en fait, j'avoue que j'étais... merci. J'étais
alors,
profondément
mais
malhonnête.
Est-ce que vous pourriez nous la décrire ?
Ouais, mais j'étais profondément malhonnête parce qu'en fait, je me suis pas inspiré l'image, j'ai mis le film que j'avais envie de mettre en fait.
Vous avez triché.
J'ai triché complètement parce que je venais de découvrir un film qui m'avait révolutionné, qui était très rare et qui est très rare, que personne ne peut jamais voir. Donc je me suis dit, il faut absolument que je passe quelque part. Donc j'ai jeté des occasions. Et donc là, l'espèce de soleil brûlé n'a pas le moindre rapport tactile, visuel, sensoriel, olfactif, sexuel avec le film que j'ai présenté ce soir. Pas le moindre rapport. J'ai triché quoi, et honteusement.
Et donc alors, le film que vous avez choisi, quel est-il ?
C'est un film de 70, 69 en fait. C'était le mois de mai, film de Koutsiev, un cinéaste soviétique, qui n'a pas fait énormément de films, mais que je ne connais même pas en fait. J'ai découvert ce film à Locarno en fait, cet été, je ne connais même pas les autres films de Koutsiev, je ne suis pas du tout un spécialiste en vérité, mais c'est un film génial, mais je ne vais pas trop en dire, parce que je voudrais que les gens aient la surprise s'ils viennent. C'est un film de guerre, mais si vous voulez, il y a deux types de films de guerre. Il y a les films où on est sur le front, là où les états-majors s'affrontent, si vous voulez, par exemple les tranchées et tout ça, et puis il y a les films de guerre itinérants. On est par exemple, qu'on a eu beaucoup aux États-Unis, avec des unités mobiles qui se déplacent par exemple à l'isère des frontières, qui vont récupérer quelqu'un, qui vont préparer une piste, qui vont essayer de sauver quelqu'un. Et là, il invente un nouveau genre de film de guerre, alors que moi, avec la France, j'avais essayé d'être le plus proche du film mobile, du film itinérant de la campagne. C'est que c'est un film de guerre, mais qui se passe au moment où la guerre est finie en fait. Donc c'est un film de démobilisation, mais où des soldats russes se retrouvent en Pologne ou en Allemagne, en fait, je sais même pas, à attendre, ça n'a pas quoi faire si vous voulez. Donc c'est un film où on pourrait dire le film commence quand le scénario s'arrête, au sens où il n'y a plus rien à faire si vous voulez. Quand la guerre s'arrête et qu'on n'est pas démobilisé, on part se promener, pour regarder le ciel, vous pouvez vous gratter les couilles, mais il n'y a pas grand chose à faire. Et donc à partir de rien, le film a créé, à partir de cette espèce de latence de fiction, le film crée quelque chose d'extrêmement fluide et musical, mais dont je parlerai tout à l'heure pendant la présentation. Voilà. C'est un film en mettant très fort sur les camps de concentration, qui est un sujet que moi je trouve très difficile à traiter au cinéma et qui arrive là de manière extrêmement impromptue et inattendue, parce que les soldats russes qui visitent le camp, évidemment déserté, ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc quand ils voient les fours crématoires, par exemple, ils pensent que c'est des trucs pour le linge, vous savez, pour faire sécher le linge. Mais en même temps, ils disent comment pour faire sécher le linge, pourquoi ça, c'est pas logique, etc. Et donc ils voient tous les trucs, même les douches, ils comprennent pas, et ça fait un effet assez sidérant. Ouais.
Et c'est cette sidération aussi que vous aviez envie de faire partager en proposant.
J'ai envie de faire partager le film parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, c'est la première partie, parce que c'est un film en deux parties que je préfère, avant qu'il y ait la découverte du camp de concentration, quand les soldats n'ont vraiment rien à faire que flâner, discuter et se promener. Et où le film est vraiment absolument génial à partir de rien, quoi.
Et est-ce que vous avez pensé aussi à la dernière image de ce film et à ce qu'elle pourrait inspirer?
Non.
Et alors, est-ce que vous savez quel film elle a inspiré?
Non, aucune idée.
Le Roi des Roses de Werner Schroeter.
Ah, d'accord, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse. J'ai vu ça quand j'étais au collège, ouais, avec mon père. Ouais.
Et alors, est-ce que ça, pour vous, ça évoque une résonance? Peut-être non. A-t-il, peut-être Yann Gonzalez a-t-il triché tout comme vous.
Parce qu'on est tous des tricheurs. Mais en tout cas, ouais. Non, c'est Yann Gonzalez qui a choisi, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est très schrotterien, arriétien, c'est logique. Ça va avec sous ses mains.
Florence?
Alors ce soir, vous allez nous faire danser à la Poudrière.
Ouais, tout à fait.
Racontez-nous.
Bah, j'ai amené les 45 tours, des 45 tours originaux, très rares, même pour certains rarissimes, qui sont essentiellement des années 50 aux années 70. Donc aux années 50, c'est beaucoup de rockabilly, doo-wop. Ensuite, dans les années 60, on passe au surf. Bon, rock'n'roll, garage, northern soul, breakbeat, enfin je vais pas faire tous les genres, mais en gros, c'est, et ça va jusqu'au punk do it yourself, mais en gros c'est de la musique assez énergique, assez dansante, et passée avec un, c'est très différent d'un MP3 ou de je sais pas quoi, c'est passé avec des 47 tours originaux quoi, que j'ai amené de Paris, là, voilà. J'ai toute une collection, je collectionne depuis longtemps, depuis... j'avais déjà passé des disques à la Poudrière du temps de Mods en 2002, donc ça remonte, voilà.
Et vous allez intervenir dans le concert avec Mehdi Zanat
non.
Précédemment
non. Non, je serai dans la salle, puis quand il va arrêter, tac, je vais lancer des disques. Voilà.
Donc, on le disait, ça n'est pas la première fois que
non, je suis venu au moins 5 fois ici. Moi.
À entrevue, justement, mais que représente ce festival pour
vous? Pour moi, c'est un festival important, parce que c'est simplement là que j'étais découvert, déjà, d'un point de vue très narcissique, puisque mon premier film Amitié était passé quand même plus ou moins à l'AS. En termes de festival, il n'avait pas fait grand-chose, par le prix Georges Rotassadoul et puis les rencontres de jeunes cinéma européens à Lyon. Et là, Mods, qui est passé donc en 2002, l'hiver, a eu le prix Laucher et d'un coup, il y a eu un effet de reconnaissance, disons, là, boule de neige, ensuite le film est passé spécial. Et on peut dire que c'est vraiment, je suis un enfant de Belfort, comme je peux être un enfant de la Cinémathèque au sens de mes habitudes parisiennes de film, je suis un enfant de Belfort du point de vue de la découverte. C'est un très bon festival, si vous voulez. Avant, il y avait Dunkerque et Belfort. Dunkerque n'existe plus, maintenant, il n'y a plus que Belfort qui fait ce travail un peu de défrichage du cinéma, entre guillemets, comme on dit, à RSA, hélas, français le plus vivant. Il n'y a que Belfort. C'est le seul.
Et comment l'avez-vous vu évoluer, ce festival?
Moi, comme à chaque fois, vous savez bien, c'est toujours un peu faussé, quand on va dans les festivals, on ne reste pas des jours et des jours. Donc moi, j'ai vu passer beaucoup d'équipes différentes, en effet, aussi bien de sélectionneurs que de, je sais pas comment on dit, de président, délégué général, directeur, je ne sais pas comment on dit. Mais moi, je ne me rends pas compte de la manière dont la sélection a pu évoluer, parce que pour ça, il faudrait rester vraiment à chaque fois, sinon tout le festival, en tout cas suivre la programmation. Mais en fait, comme vous savez, peut-être pas. Les cinéastes, quand ils viennent dans un festival, ils ne voient rien. Moi, je ne veux pas rien avoir le temps de voir, par exemple. Là, je suis arrivé aujourd'hui, je repars demain. Donc, j'aurais vu zéro film. Donc, ce serait un peu dur de se faire une idée de la programmation sans rien voir. Donc, je n'ai pas la moindre idée.
Et alors, sur quel projet de film travaillez-vous en ce moment?
J'ai un projet qui est assez bien avancé, où j'ai eu l'avance sur recette, Arte, un distributeur que je devrais tourner ce printemps, j'espère. C'est une sorte de film fantastique, en même temps un peu comique, qui se passe de nos jours dans un lycée, dans le monde de l'éducation nationale. Voilà.
Et avec la présence du fantastique?
Ouais. Ouais, tout à fait, parce que c'est une adaptation d'un livre fantastique. Voilà.
De quel livre?
Je peux pas le dire, c'est une surprise. Il y a trop d'enjeux financiers.
Donc c'est surtout pas un documentaire sur l'éducation nationale?
Non, surtout pas un documentaire, surtout pas. Non.
Très bien, mais merci beaucoup merci d'être venu nous voir, Serge Boson.
Je vous en prie, merci.
Fluxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Sweet, we are.
I love it. I think it's